en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le mercredi 13 juin 2012, à l'occasion du tricentenaire de la mort de Giovanni Domenico Cassini, le Bureau des Longitudes a organisé une journée scientifique autour de l'astronome français, né en 1625 et décédé en 1712. Giovanni Domenico Cassini s'est investi dans l'étude du système solaire de la Terre jusqu'au Soleil. Il a découvert notamment des objets et des phénomènes tels qu'un certain nombre des satellites de Saturne ou encore la lumière zodiacale. Membre associé de l'Académie royale des sciences en 1669, on lui doit notamment le calcul de la distance Terre-Soleil, les longitudes terrestres ou encore une cartographie de la Lune. Consulté par Colbert sur la construction de l'Observatoire de Paris, il s'y installe en 1671 et participe à la mesure de la méridienne de l'Observatoire. Le Bureau des Longitudes lui rend donc un bel hommage avec ce cycle de conférences. Annie-Chantal Levasseur-Regourd, astrophysicienne, professeure à l'Université Pierre et Marie Curie, est également membre du LATMOS, c'est-à-dire le Laboratoire Atmosphère Milieu Observation Spatiale. Elle est également impliquée dans des organisations internationales et a été la représentante française pour l'année mondiale de l'astronomie en 2009. Spécialiste des comètes, des astéroïdes et des poussières interplanétaires, sa conférence évoquait le nuage zodiacal, diffusion, émission et évolution des particules solides interplanétaires. Retrouvez dès maintenant la conférence d'Annie-Chantal Levasseur-Regourd qui s'est déroulée à la Fondation Del Duca.
Vous avez depuis quelques instants eu l'occasion de voir une photo actuelle de la lumière zodiacale prise par un collègue de l'ESO, donc au Chili. Vous voyez quel bel aspect ça peut avoir avec un ciel très pur comme ce que Cassini avait autrefois à Paris et que bien sûr nous n'avons plus actuellement. Alors au niveau du plan, je vous parlerai donc déjà, mais ça a été largement abordé par Suzanne de Barba, de Cassini et la lumière zodiacale. Et puis ensuite, je vous expliquerai qu'on comprend maintenant les propriétés de cette lumière zodiacale par de la diffusion lumineuse sur des petites particules solides. Et puis ces petites particules solides qui constituent un nuage, non seulement elles diffusent la lumière du soleil, mais elles émettent aussi un rayonnement, une émission thermique dans l'infrarouge. Et je continuerai en vous disant que si on étudie cette lumière zodiacale actuellement et cette émission thermique, c'est surtout pour mieux comprendre l'origine, l'évolution du système solaire. Et si j'en ai le temps, je dirais aussi que ça a des implications pour l'étude d'autres systèmes stellaires au-delà du système solaire, donc. Donc, commençons avec Cassini. Vous l'avez entendu dire, dans le journal des savants, il a pu dire « Ah, je n'ai pas fait de copie, alors j'ai essayé d'utiliser une belle écriture, comme l'écriture de l'époque, en y parvenant pas très bien. » Donc, Cassini parlait d'un nouveau phénomène rare et singulier, d'une lumière céleste qui est apparue au commencement du printemps de cette année. Et puis, à partir de 1685, il a vraiment parlé de la découverte de la lumière céleste qui paraît ou qui paroît dans le zodiaque. Et le zodiaque, c'est donc cette bande proche de l'écliptique. Avec cette jolie figure qui vous a déjà été montrée, où l'on voit l'horizon terrestre, où l'on voit ce fuseau zodiacal et positionnant un petit peu les choses. Et ce qui est important à dire à propos de Cassini, c'est qu'il a vraiment fait des observations extrêmement bien documenté, une analyse géométrique, comme vous le voyez sur cette figure, en regardant aussi le déplacement annuel de ce fuseau selon les saisons, en observant qu'il pouvait s'étendre jusqu'à peu près 60 degrés du soleil, donc présent en dessous de l'horizon. Et puis en s'interrogeant, est-ce que c'était vraiment le plan du zodiaque, n'est-ce pas, le plan de l'écliptique, ou est-ce que c'était autre chose? Il y avait des écarts qu'il pouvait noter, qui pour certains pouvaient provenir simplement de la turbulence de l'air à faible hauteur, mais pour d'autres, peut-être d'autres choses. Et puis, dans toute cette étude, il discute vraiment déjà au sens des articles scientifiques d'aujourd'hui, il parle déjà de variabilité, il s'interroge presque sur ce qu'on appellerait aujourd'hui la durée de vie, des choses dont je vous reparlerai, Et donc, il a déjà compris que c'est un nuage aplati qui diffuse d'autant plus la lumière, c'était l'image que vous avez vue tout à l'heure, qu'on se rapproche plus ou moins du zodiaque, disons donc, et qu'on se rapproche de l'horizon du soleil. Et en fait, j'ai envie de dire que il n'a pas découvert la lumière zodiacale. C'est demander qui a découvert la lumière zodiacale, c'est un peu comme se demander qui a découvert la lune. Hein. Les anciens, même avant de savoir écrire, dans un ciel parfaitement pur, sans pollution lumineuse, qu'on est incapable d'imaginer aujourd'hui, il la voyait, cette lumière. Hein. Mais il a été le premier à la décrire et en faire vraiment une approche scientifique contemporaine. Hein. Et ce phénomène, qui avait été donc décrit par Cassini, son étude a continué à devenir un point vraiment classique au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, toujours en l'absence de pollution lumineuse. Hein. Il y a par exemple Dortout de Méran qui, dans le traité physique et historique de l'aurore polaire, présentait ce très joli dessin qu'on vous a montré aussi tout à l'heure, du nuage zodiacal, et qui commençait à percevoir le fait que ce nuage, il allait bien au-delà de l'orbite terrestre. Et puis, pour le plaisir, hein, je vous laisse lire, si vous le voulez, ce qui a été écrit par Edgar Poe, hein, dans ses nouvelles, en l'occurrence, L'aventure sans pareil d'un certain Hans Pfahl, et dans une très jolie traduction de Baudelaire, eh bien, voyez, ça nous parle de phénomènes lenticulaires, la lumière zodiacale, un point digne d'attention, bien visible sous les tropiques, évidemment, parce que plus on se rapproche des tropiques, plus le plan de l'écliptique est relativement vertical, hein, qu'il est impossible de prendre pour autre chose, une lumière météoritique quelconque, hein, qui s'élève sur l'horizon, et qui suit généralement la ligne de l'équateur du Soleil. Là, j'ai mis un petit point d'exclamation, parce qu'effectivement, suite aux observations de Cassini, à tout ce qui a été fait dans le XVIIIe siècle, on était un petit peu persuadé que la symétrie, c'était plutôt le plan de l'équateur solaire que le plan de l'écliptique. Et dans tous les beaux ouvrages d'astronomie du XIXe siècle, pardon, j'ai pris là le ciel de Guillemin, vous avez des ravissants dessins de la lumière zodiacale telle qu'elle peut être vue sous nos latitudes ou bien dans des zones de plus basse latitude. Et je recite Cassini pour vous laisser admirer une jolie citation de Cassini qui résume un petit peu tout ce que j'ai envie de dire. « Les nouvelles découvertes ne sont pas si considérables dans leur commencement qu'elles le deviennent dans la suite. La continuation des observations est ce qui les perfectionne et ce qui en fait connaître la grandeur et les conséquences. » Alors d'ailleurs, toujours au XIXe siècle, pardon, Humboldt rend hommage à Cassini. Je devrais d'ailleurs dire que on lui attribue souvent, Alexander von Humboldt, la découverte du Gegenschein, c'est-à-dire une contre-lumière qui est visible dans la direction antisolaire. D'autres l'attribuent à Brorsen, mais toujours est-il que dans son Cosmos, publié à la fin de sa vie, il a dit clairement à Dominique Cassini revient le mérite incontestable d'avoir le premier soumis le phénomène de la lumière zodiacale à un examen approfondi dans le printemps de 1683. Et à la fin du 19e siècle, un sujet qui me tient à cœur, donc j'en parle déjà, eh bien il y a Wright qui déjà s'intéresse à la polarisation de la lumière zodiacale. On sait depuis Arago, donc depuis le début du 19e siècle, que la diffusion de la lumière solaire sur des petites particules, ça fait de la lumière polarisée, et il commence à concevoir que le spectre de la lumière zodiacale, c'est tout simplement le spectre du Soleil, et que on a une petite polarisation linéaire, ce qui veut dire que c'est de la diffusion, à l'époque, Wright écrit, par des petits corps gravitant autour du Soleil, auprès de l'écliptique et du Soleil. Bon. Et j'en viens maintenant à notre 20e siècle, où on a déjà commencé à faire des observations vraiment quantifiées, moins subjective qu'avant, avec, mais il y a pas mal de Français qui ont été présents là-dedans, Dufay qui a été le premier à faire des images de la lumière zodiacale, des clichés, ça c'est plus récent, c'est d'un collègue japonais, et puis aussi Liot, qui a pu, avec un coronographe de Liot, évidemment, observer la lumière zodiacale très près du Soleil et voir la continuité de cette lumière zodiacale à ce que l'on appelle aujourd'hui la couronne F solaire. Et puis est arrivée l'ère spatiale qui a passablement changé les choses, avec en particulier des sondes qui ont observé à la fois dans le système solaire interne, Hélios 1 et 2, et des sondes qui ont observé dans le système solaire externe, hein, jusqu'à 20 unités astronomiques du Soleil, Pionier 10 et 11, tout à l'heure je crois qu'on vous parlait de Pionier 8 et 9, il y a toute une collection de pionniers. Et puis un travail qui me tient un petit peu plus à cœur, puisque j'ai été mêlée à ça au moment de ma thèse d'état, hein. Il y a eu d'une part des observateurs au sol, Dumont à Bordeaux, Weinberg aux États-Unis, qui ont fait des observations très précises, photométriques, photopolarimétriques au sol, en cherchant à vraiment retirer la composante de l'avant-plan, parce que faire des mesures propres photométriques de la lumière zodiacale, alors que devant, on a la lumière atmosphérique, même de nuit, qui est diffusée, c'est pas évident, hein. Et puis, moi, j'avais la chance de pouvoir faire des observations dans l'espace depuis un satellite en orbite terrestre D2A. Là, évidemment, on ne pouvait pas observer dans autant de directions qu'au sol, mais on a pu faire une certaine complémentarité de tout ça. Et c'est ce qui nous a permis de commencer à trouver, émerveiller, je dois dire, un bon accord entre ces observations au sol traitées très astucieusement et des observations en orbite autour de la Terre. Et ça nous a permis d'avoir une mesure qu'on a trouvée très précise à l'époque, et puis maintenant, il y a mieux, hein, pour déterminer le plan de symétrie du nuage zodiacal. Vous voyez que je mentionne une inclinaison d'environ 1,5 degré et une longitude du nœud ascendant d'environ 95 degrés, avec des grosses barres d'erreur que j'ai même pas osé écrire, parce qu'il y a pas mal de barres d'erreur. Mais de toute façon, ça, c'est au niveau de l'orbite de la Terre. On pense de plus en plus, quand je donne ces coordonnées, c'est un peu le plan invariable du système solaire, mais on pense de plus en plus qu'il n'y a pas vraiment un plan de symétrie, il y a une surface de symétrie qui est gauchie. Par exemple, on peut penser qu'au niveau de Vénus, c'est plutôt une inclinaison de 3 degrés, etc. Et puis, on a commencé à estimer la brillance de cette lumière zodiacale. Alors, évidemment, si on veut estimer la brillance, il faut utiliser des coordonnées. On sait que le plan de symétrie, c'est pas tout à fait le plan de l'écliptique. On peut corriger de ceci, hein. Et à ce moment-là, on va utiliser des coordonnées dites hélio-écliptiques, une latitude écliptique, et puis aussi une longitude hélio-écliptique. Bon, ben là, vous voyez rien, c'est tout petit, hein. Mais vous voyez, il y a un tableau qui donne des valeurs. Et je signalerai simplement que, donc, verticalement, on se rapproche du soleil, vers la droite, on se rapproche du pôle de l'écliptique. Et ce que j'ai montré par un ovale en bas, c'est un renforcement de cette intensité, de cette brillance, précisément le Gegenschein, la contre-lumière dans la région antisolaire. Et puis, je pourrais même ajouter qu'il y avait en haut une zone sans rien, un point d'interrogation, c'est la lumière zodiacale dont on ne peut pas déterminer l'intensité depuis la Terre parce qu'on arrive dans le crépuscule, n'est-ce pas? Mais on peut la voir, bien par exemple, une image qui a été prise par Clementine, qui est un satellite qui s'est trouvé en orbite autour de la Lune. Et là, à ce moment-là, pas de problème atmosphérique. Et vous voyez encore ce fuseau zodiacal des planètes juste obscurcies par la Lune, mais se rapprochant avec les signaux, se rapprochant du Soleil. Bon, donc cette brillance est donnée dans des unités absolument baroques qui sont le nombre d'étoiles de type solaire et de dixième magnitude visuelle par degré carré. C'est commode parce que à ce moment-là, cette définition est indépendante de la longueur d'onde, j'ai dit de type solaire, et on peut transformer ça en disant que cette unité, ça fait 1,25, 10 puissance moins, etc., des watts par mètre carré, par seconde, par stéradian, par micromètre, par tout ce que vous voulez, mais on a des tables bien établies pour ça. Et puis, on a pu aussi travailler sur la polarisation de la lumière. La polarisation de la lumière, bah, avec nos yeux, on la voit pas, parce qu'on n'est pas des insectes, on n'est pas des abeilles qui, eux, sont sensibles à la polarisation par diffusion, hein. C'est comme ça que les abeilles s'orientent éventuellement en regardant la polarisation de la lumière diffusée par les molécules dans l'atmosphère. Toujours est-il, revenons non pas aux abeilles, mais à nos petites poussières. Elles sont donc éclairées par de la lumière solaire. Elles diffusent partiellement cette lumière avec deux composantes, l'une dans le plan de diffusion, l'autre perpendiculairement au plan de diffusion. La brillance elle-même est la somme de ces deux composantes polarisées. Et la polarisation, c'est le rapport de la différence par la somme. C'est donc une grandeur qui est entre moins 1 et plus 1. Et pour ça aussi, on a des tableaux de cette polarisation qui va être donnée en pourcents, par exemple, et vous retrouvez la région antisolaire, le Gegenschein, avec une polarisation négative, parce que ça veut dire à ce moment-là que la composante perpendiculaire est plus petite que la composante parallèle. au-delà de notre orbite terrestre, on n'a pas de belles images, au-delà de la Terre ou de la Lune, on n'a pas de belles images de la lumière zodiacale, mais les artistes, les spécialistes de space art, n'est-ce pas, font des très belles choses. Et bien voilà comment Bill Hartman, un collègue américain qui en fait travaille sur les astéroïdes, mais qui gagne beaucoup mieux sa vie en vendant des tableaux de space art, imagine qu'on pourrait voir ça. Mais il est très bien parce qu'il fait des donations pour des thèses pour des jeunes avec l'argent qu'il gagne. Donc c'est pour ça que je respecte beaucoup. Hein. Donc l'imagine depuis la Lune, encore plus beau que photographié par Clementine, et puis d'autres artistes encore plus loin, peut-être dans l'univers. Hein. Et on a une brillance intégrée pour laquelle on peut donner une loi puissance. Mais il faut bien reconnaître que cette lumière zodiacale, on n'arrive pas vraiment à la détecter au-delà de la ceinture d'astéroïdes. Et pourtant, on sait qu'il y a encore des petites particules interplanétaires au-delà de la ceinture d'astéroïdes, et à ce moment-là, pour bien le savoir, on utilise des sondes qui se promènent dans le plan de l'écliptique essentiellement. On espérait une fois qu'il y aurait une sonde qui irait hors de l'écliptique et qui pourrait faire des mesures. La sonde européenne, ça a été Ulysse, la sonde américaine qui devait s'appeler Out of Ecliptic a été supprimée. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe quand on sort de ce plan de l'écliptique, mais on peut faire des mesures d'impact sur les sondes, et précisément des véhicules spatiaux comme Ulysse et comme Galileo au niveau de Jupiter et comme Cassini, alors pas Jean-Dominique, mais la sonde spatiale Cassini, n'est-ce pas, ont pu découvrir que dans le système de ces planètes géantes, il y avait plein de petites poussières solides, des petites particules solides, qui étaient d'ailleurs susceptibles d'interagir avec les magnétosphères de ces planètes géantes et qui, pour Jupiter, provenaient probablement de Io, etc., énormément de physique intéressante à ce niveau. J'en passe maintenant à l'émission thermique du nuage zodiacal, hein. Et donc ces petites poussières, elles ont une certaine température, donc un spectre de Planck, et vous voyez là une belle carte du ciel en projection. Horizontalement, vous avez le plan à 60 micromètres, devrais-je dire. Horizontalement, le plan de la Voie lactée, le plan galactique. Et le S un peu bleuté que vous voyez, eh bien, c'est la trace du plan de l'écliptique ou du plan invariable. Cette région, il y a le maximum de concentration. Et j'ajoute que ces études qui ont pu être faites par, commencées par le satellite IRAS et ensuite par COBE et beaucoup plus récemment par Spitzer, hein, permettent d'accentuer des hétérogénéités locales dans ce nuage qu'on avait suspecté, mais vraiment à la limite de détectabilité avec la diffusion de la lumière, et là avec l'émission thermique, c'est bien clair. IRAS a pu mettre en évidence des poussières dans le milieu interplanétaire pas chaudes du tout qui existent essentiellement dans la ceinture d'astéroïdes et qui viennent de collisions entre astéroïdes des familles Thémis ou Eos ou Coronis, et puis des traînées le long d'orbites cométaires. Et là, justement, j'ai mis une image que j'aime bien d'une traînée, c'est des particules de quelques microns, le long de l'orbite de la comète Churyumov-Gerasimenko, qui est précisément la cible de la mission Rosetta, cette mission européenne qui devrait atteindre cette comète en 2014. Alors, vous avez peut-être vu, pardon, sur le transparent précédent que je parlais de température intégrée. Évidemment, qu'est-ce que ça veut dire une température intégrée de 260 degrés? Ça ne veut pas dire grand-chose. Ce que je suis simplement en train d'expliquer par ce petit dessin, c'est que, en fait, quand on observe la lumière zodiacale depuis un point donné, on observe sur une ligne de visée pour laquelle la distance au soleil varie. Hein, donc, pour de l'émission thermique, la température va varier. On a une intégrale, évidemment, de la concentration locale par l'émissivité, qui dépend de la distance au soleil, de la température, et il faut arriver à extraire de l'information. Alors, il y a les techniques d'inversion qu'on a pu développer en France, qui ont aussi été développées par nos collègues finlandais, excusez-moi, Loumé. Et en fait, on a, par exemple, la possibilité de faire une inversion locale sur la ligne de visée. D'ailleurs, c'est ce que je faisais aussi avec Giotto, et c'est pour ça que je regardais à l'arrière, pour étudier non pas le noyau de la comète, mais la chevelure de la comète. Et donc, on peut aussi couper sur la trajectoire autour du Soleil pour avoir une information intermédiaire. Et en quelques mots, on arrive à avoir des informations locales, essentiellement dans le plan de symétrie de nuages, qui est donc proche de l'écliptique. Et par exemple, pour la température, on est arrivé à établir que la température décroît en 1 sur R à la puissance 0,36 plus ou moins quelque chose, c'est-à-dire c'est pas parfaitement un corps noir. et on essaiera d'expliquer pourquoi tout à l'heure. Hein. Et puis je reviens un petit peu à la diffusion lumineuse, toujours dans le plan de symétrie du nuage, on peut en déduire la concentration locale. Et bien alors, en bref, cette jolie formule nous dit que si on prend 1 km³ au niveau de l'orbite de la Terre, mais il n'y a guère que 5 petites particules là-dedans. Hein. Donc vous êtes en train de vous demander pourquoi ça fait un quart d'heure que je parle là-dessus alors qu'il y a si peu de choses. Mais enfin, intégré dans tout l'espace, ça devient quand même significatif. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on trouve directement par ces inversions une concentration locale, vous le voyez, en pratiquement 1 sur R. Hein. 0,93 plus ou moins 0,07, excusez-moi, c'est ce que nous donnent les résultats expérimentaux. Hein. Et ce 1 sur R, on verra tout à l'heure, si j'en ai le temps, que ça peut signifier quelque chose. Et puis, on regarde aussi la polarisation locale, non pas intégrée sur la ligne de visée. Et là, ce qu'on remarque qui est peut-être intéressant, sur ce graphique dans lequel on voit la polarisation en fonction de la distance au soleil dans le plan de l'écliptique, c'est que cette polarisation descend alors qu'on se rapproche du soleil. Or, la polarisation qui est normalisée nous renseigne vraiment sur les propriétés physiques des particules. Ce qui veut dire que les propriétés physiques des particules ne sont pas les mêmes au niveau de UNUA du Soleil et beaucoup plus près ou peut-être beaucoup plus loin du Soleil, que ce nuage n'est pas homogène au niveau des propriétés des poussières. On a aussi obtenu des courbes de phase polarimétriques locales et c'est la polarisation en fonction de l'angle de phase. Vous voyez la petite région à gauche, c'est cette région de polarisation négative qu'on a aussi localement. Et ces courbes très lisses, c'est ce qu'on a aussi par exemple pour des poussières cométaires, ce qu'on a pour des régolithes sur des astéroïdes, sur la Lune, je parlais de Lyo tout à l'heure, sur Mars. Ça veut dire essentiellement que c'est de la diffusion par des particules qui sont irrégulières, qui n'ont rien à voir avec des petites sphères, hein, et qui ont des dimensions généralement plus grandes que la longueur d'onde observationnelle, on observe surtout dans le visible. Hein. Et j'en viens maintenant à cette évolution du système solaire. Évidemment, vous avez des petites particules dans le système solaire, bon, alors elles sont soumises à la gravité solaire, hein. Et puis il y a aussi une force qui est induite par la pression du rayonnement solaire, parce que ce sont des petites particules, et on parle souvent du rapport bêta entre cette force et puis la gravité. Bon, il y a ainsi moins sur ma formule, parce qu'évidemment la pression de rayonnement solaire, elle repousse du soleil, et la gravité, elle attire, et en fait, cette quantité est inversement proportionnelle au produit de la masse volumique, rho, par la taille. C'est-à-dire que plus les particules sont petites, plus elles ont de chances d'être chassées par la pression du rayonnement solaire, et plus elles sont à taille égale poreuses, peu denses, plus elles ont de chances d'être chassées par la pression du rayonnement solaire. C'est ce qui a parfois été appelé des bêta-météoroïdes. Les particules qui deviennent très petites sont chassées à la périphérie du système solaire sur des orbites paraboliques ou plutôt hyperboliques. Et puis, nous avons aussi une force de freinage par effet Poynting-Robertson. Hein, c'est une composante de la pression de rayonnement tangente à l'orbite, c'est parfois appelé un effet relativiste, mais enfin je trouve ça un peu pédant et excessif. Hein. Bon, et toujours est-il que cet effet Poynting-Robertson, il se traduit par un freinage, hein. Il agit sur des particules typiquement d'une taille, pour une masse volumique moyenne, de l'ordre de quelques microns, hein, donc un cœur important de toutes ces particules, et un freinage, ça veut dire qu'au lieu de décrire des bonnes orbites keplériennes, elles vont progressivement, très lentement, se rapprocher du Soleil. Hein. Si vous prenez une particule de quelques microns au niveau de l'orbite terrestre, avec une densité, que je veux dire, une densité de 3, eh bien, il lui faudra, je ne sais plus si c'est 10 000 ans ou 40 000 ans, pour tomber sur le Soleil. Hein. Et donc, ça veut dire que les variations avec la distance au soleil dont on avait parlé tout à l'heure, eh bien, ça peut être aussi des variations avec le temps qui s'écoule alors que les petites particules tombent vers le soleil. Et justement, question de quelles sont les sources là-dedans, dans ce nuage interplanétaire, quels sont les puits? Parce que, vous voyez, quand je vous dis qu'une particule peut tomber en 40 000 ans, c'est pas long, 40 000 ans par rapport à l'âge du système solaire. Hein. Donc, les sources, on a certainement des particules solides qui sont éjectées par les comètes qui se rapprochent du Soleil. On a aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, des poussières qui sont formées par collision entre les astéroïdes. J'ai également parlé des particules qui se trouvent dans le système de Jupiter ou de Saturne, hein, telles que ça avait été pu être observé par la sonde Cassini. Et puis, ces sondes dans l'espace lointain ont aussi récemment détecté des petites particules interstellaires submicroniques qui arrivent à rentrer au niveau des, ce que je dirais, des franges gravitationnelles du système solaire. Voilà, il y a plein de choses qui amènent des particules. Et puis, les particules, elles peuvent aussi disparaître, il y a des puits. Échappement du système solaire, ce que j'ai appelé les bêta-météroïdes tout à l'heure, aussi chute vers le Soleil, et puis même quand une particule spirale en tombant vers le Soleil, ben dans sa trajectoire, elle peut même tomber sur la Terre ou sur une autre planète. On estime que, par exemple, pour la Terre, ça paraît énorme, et c'est pour ça que j'aime bien faire le ménage, enfin, je discute, et il y a à peu près 40 000 kilogrammes de poussière interplanétaire qui tombent sur Terre par jour. Mais il y a beaucoup plus de poussière venant de la pollution industrielle, etc. Et là, je vous montre parmi toutes ces sources des images prises au microscope électronique de particules qui ont été collectées dans la stratosphère terrestre par nos collègues de la NASA. Et vous voyez certaines particules qui sont un peu rondes, un peu compactes. C'est celle du bas. On pense qu'elles sont un peu d'origine astéroïdale. Et c'est des particules, ça fait typiquement 40-50 micromètres en dimension. Et celle que j'ai mise en haut, eh bien, on a de fortes raisons de suspecter que ce sont des particules d'origine cométaire. Parce que par ailleurs, entre autres avec Giotto, on a pu prouver que les particules cométaires sont très poreuses, très floconneuses, très peu denses. Et la grande question qu'on se pose à ce moment-là, c'est est-ce que le nuage zodiacal est stationnaire ? Les observations photométriques, vous l'avez compris, ça a commencé après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, donc ça fait pas longtemps. Les observations visuelles, alors semble-t-il, les Égyptiens avaient dessiné des triangles, pas seulement des pyramides, pour parler de la lumière zodiacale. Il semblerait aussi qu'il y ait des témoignages dans des choses écrites en Assyrie, mais enfin, bon. Toujours est-il que qu'est-ce que ça représente, ça, quelques milliers d'années par rapport à l'âge du système solaire? On ne sait pas du tout si c'est un phénomène stationnaire ou non. Et j'aurais personnellement tendance à penser que quand il y a des flux de comètes beaucoup plus importants qui se précipitent vers le système solaire interne, il va y avoir une lumière zodiacale bien plus grande. Et il y a tous les modèles qui sont faits maintenant, en particulier par le groupe de Nice, du grand bombardement tardif, et il y a à peu près 4 milliards d'années qui peuvent donner à penser qu'à ce moment-là, la lumière zodiacale, c'était autre chose. Aujourd'hui, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des effets de mode au niveau de la source prépondérante. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, eh bien, on disait que la source prépondérante, c'était les comètes. D'ailleurs, les essaims météoritiques, ça vient bien des comètes. Et puis, quand les premières observations étaient faites par des satellites infrarouges, comme IRAS, parce qu'il y avait eu cette contribution dans la ceinture d'astéroïdes, on a beaucoup parlé d'astéroïdes comme source prépondérante. Et puis, aujourd'hui, on revient un peu à l'hypothèse cométaire avec diverses approches. Je vais d'aller un petit peu vite là-dessus. Il y a eu des simulations numériques qui ont été faites par un de mes étudiants, mes anciens étudiants maintenant à l'époque de sa thèse, Jérémy Lassu, en prenant des grains compacts, en prenant aussi des agrégats fractals de ces grains, aussi en faisant un mélange de silicate astronomique relativement transparent et puis d'organique beaucoup plus absorbant avec les indices de réfraction complexe comme il convient, en utilisant nos bons codes de diffusion lumineuse. Et à ce moment-là, pour avoir un bon accord avec ces observations de lumière zodiacale et en particulier observations locales, il voit essentiellement des particules dont le rayon effectif est compris entre 0,1 et 100 micromètres, une distribution en taille typique d'impacts successifs, et puis des silicates et des organiques et des agrégats là-dedans. Et voyez, il y a des grandes valeurs, il y a peut-être entre 25 et 50% d'organiques, parce qu'on peut voir des particules avec des organiques à la périphérie, mais il y a peut-être des silicates à l'intérieur, et évidemment la diffusion lumineuse ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur d'un petit grain diffusant. Alors vous vous rappelez, je vous avais parlé de la décroissance de la polarisation quand on se rapproche du Soleil. À gauche, on est au niveau du Soleil, et puis à droite de la figure, on serait plutôt au niveau de Mars. Eh bien, cette décroissance, à la fois par cette simulation numérique et puis aussi par des simulations expérimentales, on l'attribue à de la dégradation thermique de molécules carbonées, par exemple des polymères de HCN, mais ça peut être des choses encore plus compliquées, j'ai envie de dire. Et puis, vous rappelez aussi de la figure donnant l'angle de la distribution phase. Eh bien, on se rend compte que pour avoir un accord, il est impossible de fitter, si je puis dire en anglais, cette figure avec uniquement des silicates ou uniquement des organiques absorbants. Il faut un élégant mélange des deux. Et avec tout ça, on en vient à se dire qu'il y a au moins 50% en masse au niveau du nuage interplanétaire, pratiquement à une UA, qui correspond à des particules cométaires. Et le 1 sur R dont je parlais tout à l'heure pour la concentration, ça correspond d'ailleurs à ce qu'on attend de l'effet Poynting-Robertson dans une région où il y a une source, vers une UA, tout ça. C'est le moment où les comètes sont très actives quand elles passent. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu des collègues qui, par un très beau travail d'étude des propriétés orbitales et d'évolution dynamique, donc non pas à partir d'observations, mais à partir d'un travail dynamique purement théorique, arrivent à conclure que la plupart des poussières doivent être d'origine cométaire et peut-être même, surtout, provenant des comètes dites de la famille de Jupiter. Et donc, je parlais il y a quelques instants du grand bombardement tardif. J'aime beaucoup cette image qui était prise par un de mes collègues, Marco Foulet, dans lequel vous voyez la lumière zodiacale telle qu'elle apparaissait au sommet du Stromboli en 97. Vous voyez aussi à gauche les Pléiades, à droite la comète Halley-Bopp, la dernière belle comète qu'on ait pu voir à l'œil nu. Mais j'ai envie de revenir plutôt il y a 4 milliards d'années en arrière, à l'époque où l'on suspecte qu'il y avait un grand bombardement tardif. Et des modèles, même typiquement les modèles de Nesvorny dont je parlais juste avant, estiment que le nuage zodiacal devait être à peu près 10 puissance 4 fois, 10 000 fois plus dense à ce moment-là, avec tous les noyaux cométaires qui pouvaient se trouver être chassés de la région Uranus-Neptune et qui devenaient actifs, qui dégazaient et qui éjectaient beaucoup de poussière quand ils arrivaient dans le système solaire interne. Et donc, dans ces poussières cométaires, on le sait avec toutes les observations de sondes de cométaires, il y a beaucoup de molécules carbonées, il y a beaucoup de poussières poreuses, et on a pu faire des petits calculs essayant de modéliser la différence pour une traversée d'une atmosphère planétaire entre des petites billes qui descendraient et puis des choses très floconneuses. Et on se rend compte que quand on a des particules irrégulières, des agrégats, eh bien la probabilité de survie même de ces molécules carbonées est quand même un petit peu plus forte, si bien que, en particulier, les gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle l'astrobiologie ou la bioastronomie, je ne sais pas trop, ou l'exobiologie, se disent que peut-être que ces poussières cométaires ont été un vecteur, il y a quelques 4 milliards d'années, pour apporter des composés carbonés. Mes collègues ont récemment mis en évidence, dans les échantillons ramenés par Stardust de la comète Wilde 2, des acides aminés comme de la glycine, des molécules carbonées sur les planètes telluriques. Attention, je ne dis pas que ça a amené de la vie. Et pour terminer, quelques implications hors système solaire. Alors, je voudrais déjà citer cet article qu'on avait écrit avec toute une collection de présidents d'une commission de l'Union Astronomique Internationale. C'était paru dans Astronomie and Astrophysique en 98, supplément en 98. On pensait presque que personne ne le lirait, et c'est incroyablement cité, cette chose-là, parce que, évidemment, toutes ces tableau que je vous ai présenté tout à l'heure de lumière zodiacale, je parle uniquement de la partie lumière zodiacale là-dedans, c'est très utilisé par les observateurs depuis des grands télescopes de sources faibles et en particulier de sources faibles étendues pour choisir les meilleures époques d'observation, pour pas être en plein au voisinage de l'écliptique, et puis aussi pour ajouter des termes correctifs pour estimer donc cet avant-plan zodiacal. Et puis, il y a un tout autre aspect aussi hors système solaire. Évidemment, les étoiles qui ont des planètes, des exoplanètes, ont certainement aussi un équivalent de nuage zodiacal. On appelle ça maintenant des nuages exo-zodiacaux. Je trouve ça joli comme terme. Et évidemment, il y a des gens qui cherchent à les modéliser pour améliorer la détection d'exoplanètes. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces disciplines. Alors, évidemment, ce que j'ai envie de leur dire, et ce que je leur dis d'ailleurs, c'est qu'il faut développer des modèles, certes, mais il faut être très prudent. Dans le cas où on a des systèmes stellaires, avec en particulier des hot Jupiter, des grosses planètes, pardon, très près du Soleil, ces planètes, elles font peut-être avec leurs satellites, comme Jupiter avec Io, elle déverse peut-être des poussières et énormément de poussières dans ce nuage exozodiacal. Et puis aussi, quand on prend des clichés, ça a pu être fait pour Fomao, etc., on voit des disques de débris. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut penser de l'épaisseur optique ? Notre nuage zodiacal, il est optiquement mince, on n'a pas de diffusion multiple, vraiment. Là, est-ce différent ? Et évidemment, c'est tout un domaine nouveau qui est totalement en début d'étude, je dirais. Et pour terminer, je voudrais être prudente, non pas vous dire ce qu'on va pouvoir faire dans quelques années, parce que la réalité, c'est toujours mieux que la fiction, hein, et donc reciter Cassini avec la formule que je vous lisais tout à l'heure, hein, parce que c'est vrai qu'il a vraiment été le premier à travailler là-dessus, et ça continue, comme je vous le disais, au niveau de disques exozodiacaux, dont on n'aurait pas osé penser à ce moment-là. Et je voudrais, bien entendu, remercier le CNES qui nous a permis de faire beaucoup de choses, et mon patron de thèse ou plein d'autres collègues d'étudiants avec lesquels j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là, et vous remercier de votre attention.
Canal Academy vous propose cette retransmission de la conférence d'Annie Chantal Levasseur-Regour, astrophysicienne, professeure à l'Université Paris et Marie Curie, et spécialiste des comètes, des astéroïdes et des poussières interplanétaires. Sa conférence évoquait le nuage zodiacal, diffusion, émission et évolution des particules solides interplanétaires. Une conférence qui avait lieu à l'occasion de la journée scientifique 2012, organisée par le Bureau des longitudes en l'honneur de Giovanni Domenico Cassini. Retrouvez en fin d'article le diaporama qui accompagnait cette présentation. Je vous invite à écouter les autres retransmissions des conférences tenues lors de cette journée scientifique sur le site de Canal Academy dans la rubrique « En colloque ». Sachez que les conférences du Bureau des longitudes sont gratuites et accessibles au public. Pour en connaître le programme, rendez-vous sur le site www.bureaudeslongitudes.fr.